gratuit. Voici les titres du journal.
Le projet de développement régional agricole des Muvres franchit un cap stratégique. Entré dans une phase décisive, il doit désormais se structurer et se consolider pour sécuriser les soutiens financiers fédéraux et cantonaux. Une partie du couvent de la Pelouse sur les Hauts de Baie va être transformée en appartement à loyers modérés et sociaux. La communauté des sœurs catholiques de Saint-Maurice souhaite ouvrir ses portes aux personnes dans le besoin. C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison de ski alpin, même en année olympique. Le Cirque Blanc a rendez-vous dès demain à Kitzbühel dans le Tyrol autrichien pour 3 courses, un super G, une descente et un slalom. Et la campagne pour les élections communales vaudoises est lancée en vue des votations du 8 mars prochain. Nous vous proposons un état des lieux dans chaque commune. Aujourd'hui, place à Blonay-Saint-Léger.
Et pour la météo, un temps assez ensoleillé cet après-midi avec des passages nuageux en augmentation. Demain, quelques belles éclaircies le matin avant le retour de pas mal de nuages l'après-midi. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Favre. Bonjour Valérie.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Le projet de développement régional agricole des Muvrans entre dans une phase décisive portée par les acteurs du terrain. Il vise à valoriser les productions locales tout en renforçant les liens avec les habitants et le tourisme des communes d'Aigle, Ollon, Bé, Grillon et Lavé-Morcle. Validé par la Confédération et le canton de Vaud, l'esquisse du projet entamé il y a plusieurs années a laissé place aujourd'hui à une étude préliminaire. Une étape clé destinée à structurer les projets concrets, définir leur gouvernance et sécuriser leur financement afin d'obtenir les subventions fédérales et cantonales. Les précisions d'Emmanuel Estopet, fondateur du bureau Euphysia qui accompagne ce projet.
Cette phase qu'on fait maintenant d'études préliminaires, elle est hyper importante parce que la plupart des PDRA en fait échouent ici parce qu'on n'a pas réussi soit à consolider les projets au niveau de leur gouvernance, de leur suivi, soit au niveau du financement. Mais si on la passe, on aura, je pense, environ 1 à 2 ans de consolidation. On devra travailler sur chaque projet. C'est un projet de construction au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau des projets d'architecture. C'est vraiment quelque chose de très, très poussé. Donc, il va demander du temps. Mais ça vaut la peine parce qu'on voit que dans d'autres régions où on a ces PDRA, c'est vraiment beaucoup d'argent en fait, qui reviennent pour soutenir en fait, ces projets-là. Et ça permet tout d'un coup à des projets de pouvoir se faire alors que s'il n'y avait pas ça, on renoncerait à le faire parce qu'on n'a pas le coup de pouce nécessaire pour le réaliser. Et en plus, ça met en réseau pas mal de gens différents, donc c'est intéressant à ce niveau-là.
Les initiateurs doivent donc se projeter dans une forme de professionnalisation, comme nous le précise Emmanuel Estopet.
C'est une excellente question. Effectivement, on n'est pas tenu d'avoir, entre guillemets, une professionnalisation, en tout cas une structure identifiée pour la gestion du projet dans le cadre de l'étude préliminaire, mais on doit le présenter. Donc on va présenter un projet et effectivement, on a déjà une ou deux structures qu'on a imaginées pour pouvoir le faire. Donc on devra le présenter justement dans cette étude préliminaire. Et si on passe l'étude préliminaire, on aura l'obligation de transformer. Donc c'est-à-dire on devra se structurer professionnellement, pas professionnellement, mais en tout cas structurellement par rapport au projet. Et ça sera l'une ou l'autre des propositions qu'on proposera qui sera faite.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Cette phase doit s'achever cet été. En cas de feu vert, une période de consolidation suivra avec un lancement opérationnel envisagé dès 2028.
La communauté des sœurs catholiques ogonoises veut convertir une aile de son couvent en une 20aine d'appartements à loyer modéré.
À la pelouse sur les Hauts de Baie, les religieuses partageront dès 2027 leur quotidien avec leurs nouveaux locataires. Grâce à ce projet, la collaboration entre les sœurs et l'ARASAPE, les services sociaux au Bellerin, commencé il y a une année, sera pérennisée et permettra d'accueillir ponctuellement 4 personnes dans le besoin. Près de 6 millions de francs devront être réunis d'ici septembre pour convertir les lieux en habitation. Cet important investissement renouvelle la vocation d'hospitalité de cette communauté fondée en 1865. Pour la sœur Daniela Ardisoni, supérieure générale du couvent de la Pelouse, le grand parc et le cadre naturel du lieu favoriseront la mission sociale de la communauté.
Je crois vraiment très fort que la beauté de la nature favorise en fait le bien-être, favorise vraiment des vies qui peuvent être bousculées, qui peuvent être mises à mal par toutes sortes de soucis, par toutes sortes de deuils peut-être. Et moi je crois que la beauté, elle participe en fait à soigner les blessures qu'on a, à soigner les blessures de l'âme aussi. En tant que religieuse, en tant que catholique, je crois fortement que la beauté de la nature nous amène vers Dieu.
Aucun critère de sélection particulier ne sera requis pour habiter et partager le quotidien des religieuses rythmées par la prière, les repas et les moments communautaires. On retrouve sœur Daniela Ardisoni.
En tant que religieuse, on est ouverte et on le souhaite vraiment, pouvoir accueillir toutes sortes de personnes, peu importe finalement la religion, peu importe les croyances. On est d'abord des femmes qui rencontrent d'autres femmes et d'autres hommes. Dans un second temps, si les personnes que nous accueillons sont d'accord d'aborder la question spirituelle, on va aller dans cette direction-là. On va leur proposer, par exemple, de venir avec nous pour des offices, de prier avec nous. De toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne qui sera accueillie, on les prendra dans notre prière.
Des propos recueillis par Anthony Dacampo. Les conseils d'État vaudois et valaisans ont validé le renouvellement des mandats de Brigitte Rorive-Fettmann, reconduite à la présidence du conseil d'établissement de l'hôpital Riviera-Chablais dès le 1er janvier, et de Stéphane Coppet, désigné vice-président pour les 5 prochaines années, avec effet rétroactif au 15 octobre 2025. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre du renouvellement du conseil d'établissement de l'HRC, composé de 9 membres, 6 désignés par le canton de Vaud et 3 par le canton du Valais. L'association fêtière Suisse Culture, qui regroupe les professionnels de la culture et des médias, met en garde contre les graves conséquences de l'initiative UDC visant à réduire à 200 francs le montant de la redevance radio-TV. Si elle était acceptée, la SSR perdrait des ressources essentielles pour son rôle de coproductrice et promotrice de la création culturelle suisse. La SSR est un partenaire clé pour le cinéma suisse, la production musicale et le journalisme de service public. Une réduction de la redevance telle que celle prévue par l'initiative transformerait son mandat culturel en farce, écrit Suisse Culture dans un communiqué.
La Confédération renonce à introduire des radars anti-bruit sur les routes suisses.
Le département fédéral de l'environnement et des transports a publié en fin d'année un rapport critique sur ces nouveaux outils. Il estime que la mesure du bruit excessif des véhicules est trop complexe et coûteuse. Pourtant, une étude menée en 2023 à Genève donnait des résultats prometteurs. Des radars anti-bruit testés sur 4 tronçons ont permis d'identifier de manière fiable le 1% environ des véhicules trop bruyants. Dimitri Imanien a participé à cette étude. Il est acousticien au bureau d'ingénieur éco-acoustique à Lausanne. Dimitri Imanien constate que la décision de la Confédération freine la lutte contre le bruit.
La lutte contre le bruit en Suisse, ça concerne plus qu'un million de personnes qui sont touchées. Beaucoup, c'est lié au trafic routier. Il y a beaucoup d'argent et d'investissements qui sont mis, de temps aussi, pour réduire le bruit à la source, c'est-à-dire en limitant les vitesses en ville, le bruit des revêtements routiers. Et ces mesures, elles sont efficaces si les véhicules respectent les valeurs d'émission qui sont prévues dans la loi et qui doivent être contrôlées. Si effectivement il reste une proportion significative de véhicules extrêmement bruyants, en fait, ça annule l'efficacité des autres mesures. Le but de ces radars, c'est pas de mettre des nouvelles lois plus sévères pour les véhicules, c'est de pouvoir donner un outil aux autorités pour pouvoir contrôler les valeurs actuelles d'émission des véhicules.
Des propos recueillis par notre correspondante parlementaire Marie Vuillemier. Plutôt que des radars anti-bruit, la Confédération propose d'installer des panneaux d'affichage du niveau sonore pour sensibiliser les conducteurs. C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison de ski alpin, même en année olympique. Le Cirque Blanc a rendez-vous dès demain à Kitzbühel, dans le Tyrol autrichien, pour 3 courses, un super-G, une descente et un slalom. Plus de 80 000 personnes sont attendues dans la station qui s'est créée une véritable légende, dépassant le cadre même du sport. C'est ce que nous explique l'ancien entraîneur au sein de Suisski, Hugues Anzermo.
Kitzbühel a vraiment réussi à construire depuis le début un événement qui n'a pas de limite. On va là-bas, il y a des soirées VIP dans toute la vallée complète, spécialement pour les Autrichiens, les Allemands. Je crois qu'on trouve tous les politiciens, tous les musiciens, tous les acteurs sont là. Tout le monde doit se faire voir. Mais même après, on parle de Bernie Ecclestone, un Anglais. Donc il y a aussi les Anglais qui sont là. Arnold Schwarzenegger, même s'il est Autrichien, qui vient des États-Unis, qui est là tout le temps, qui ne voudrait pas le manquer. C'est quand même le seul endroit où les athlètes, les 3 athlètes qui gagnent la descente, se font construire leur propre costard après la course pour la soirée officielle. Non, il y a vraiment des choses incroyables autour de la compétition.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial en Autriche, Thierry Nicolet. Les courses de Kitzbühel commenceront demain à 11h30 avec un super G dont le grand favori ne sera nul autre que le Nidwaldien Marco Odermatt.
Et la station autrichienne, l'ex-skieur Roland Colombin la connaît très bien.
En 2 participations à la descente en 1973 et en 1974, le Valaisan a connu 2 succès. Il s'en souvient comme si c'était hier.
Nous, à l'époque, bon, on partait à Kitzbühel, on se disait, bon, c'est une descente Coupe du Monde. Mais on n'avait pas encore fait tous ces films et tout ce tralala sur Kitzbühel, tu vois, c'est encore pas à l'époque. Alors, mais par contre, quand on arrive à Kitzbühel pour la première fois, ça veut dire, moi j'avais 20 ans, hein, la première fois que je suis à Kitzbühel, on est impressionné parce que tout de suite, après 5-6 secondes, on a ça à l'heure, puis compression, Steillang, enfin, ça, c'est vraiment le truc... On est surpris, quoi, parce que toutes les courses avant, les descentes qu'on a fait avant, c'est pas du tout ça, tu vois, je veux dire.
Ça sortait quand même du lot.
Bien sûr qu'elle sort du lot, ben, parce que la première impression, c'est que t'as presque un peu peur. Tu dis, non, de bleu, je vais pas descendre là. Et puis, voilà, après, quelques descentes d'entraînement, on se sent plus à l'aise. Et puis après, c'est de la descente, quoi. Un vrai descendeur, il doit aimer ça.
Roland Colombin l'avoue, faire la fête à Kitzbühel, c'est plutôt sympathique. D'autant plus que celui qui est aujourd'hui âgé de 74 ans se sentait moins tendu en Autriche qu'en Suisse au moment de s'élancer sur une course de Coupe du Monde.
Déjà, l'ambiance à Kitzbühel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, moi, par exemple, je n'aimais pas du tout quand j'avais des gens que je connaissais bien. Par exemple, à Wengen, je n'aimais pas trop parce qu'il y avait trop de Valaisans, des copains. Ça me rendait plus nerveux, tu vois. Tandis qu'à Kitzbühel, il n'y avait pas tous ces Suisses qu'il y a maintenant, tu vois. Alors on était tranquille, machin. Moi, j'aimais bien, j'adorais Kitzbühel.
Celui dont la carrière s'est arrêtée brutalement à seulement 24 ans est à la tête aujourd'hui d'un restaurant Martini dont le nom porte celui de la piste de Kitzbühel, la Streif. Une manière pour Roland Colombin de garder cette station spéciale près de lui, un sujet de notre envoyé spécial en Autriche, Thierry Nicolet. Et en tennis, Stan Wawrinka a arraché son ticket pour les 16e de finale de l'Open d'Australie en battant en 5-7 et 4h33 le français Arthur Guéa aujourd'hui au deuxième tour.
Radio Chablais, spéciale élection.
À l'approche des élections communales de mars prochain, Radio Chablais vous propose chaque jour un arrêt sur image dans une commune de la région. Objectif, faire le point sur les enjeux locaux, les forces en présence et les listes déposées à quelques semaines du scrutin. Aujourd'hui, direction Blonay-Saint-Légier avec le récit de Ludovic Turin.
Dans moins de 2 mois, la commune de Blonay-Saint-Légier va renouveler ses autorités politiques. Le 8 mars prochain, la population élira les membres de la municipalité, l'exécutif de la commune, ainsi que son conseil communal pour la législature 2026-2031. 4 listes se présentent pour la municipalité. L'alliance Parti Socialiste Les Verts avec 4 candidats, dont des sortants. Le Centre avec Nathalie Épinay. Les Verts libéraux avec 2 candidats. Le PLR et sa large équipe de 5 personnes. L'Union citoyenne qui propose 4 noms ainsi que l'UDC et un candidat autonome. Parmi les principaux défis qui attendent les futurs élus figure la gestion d'un budget communal récemment déficitaire, marqué notamment par une hausse des charges liées aux services de garde d'enfants et aux transports publics sans augmentation d'impôts. Un sujet qui pourrait peser dans les discussions budgétaires à venir. Autre enjeu incontournable, la transition énergétique et climatique. Blonay-Saint-Légier s'est récemment doté du label Cité de l'énergie, engageant toute la commune dans une stratégie ambitieuse, alignée avec les objectifs cantonaux et fédéraux, notamment à travers la rénovation des bâtiments, la promotion de l'énergie solaire et la réduction de la consommation énergétique. À ces thématiques structurantes s'ajoute la question du développement durable du territoire, que ce soit dans l'aménagement, la mobilité ou encore la qualité de vie des habitants dans une commune qui conjugue tradition villageoise et attractivité résidentielle entre lacs et montagnes. Les élections communales de Blonay-Saint-Légier s'annoncent ainsi riches en enjeux.
Et demain, ce sera au tour d'Aigle.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.